moi. Alors, à chaque fois que je dis « Elon m'appelle », vous dites « Elon m'appelle ». Et quand je dis « l'oriental », vous dites « l'oriental ». Voilà.
Bonsoir à tous et bienvenue sur la dernière radio libre de francophonie. Aïe aïe aïe, aujourd'hui épisode un peu spécial puisque Marine Le Pen ne sera pas présidente de la République. Et c'est une très bonne chose car cela veut dire qu'Enrico Macias reste en France. En effet, il avait avoué qu'il quitterait la France en cas de victoire de Marine Le Pen. Eh bien, Dieu soit loué, Hosanna, réjouissons-nous, Enrico reste en métropole. Chevalier puis officier de la Légion d'honneur, commandeur des arts et des lettres, ambassadeur pour la défense des enfants, chanteur de la paix pour les Nations Unies et sans doute aussi ex-agent du Mossad, Enrico Macias, c'est le moins qu'on puisse dire, a eu une vie bien remplie. Homme aux 50 millions d'albums vendus, Enrico Macias est aussi l'ami des stars, grand camarade de Shimon Peres, d'Anwar El Sadat ou de Nicolas Sarkozy. Il a joué au Japon la même année que les Beatles, il a tourné en Union soviétique, Israël, Arménie, Liban. Tous les grands de ce monde aiment Macias. On a même retrouvé des cassettes audio d'Enrico en Afghanistan, dans les affaires d'Oussama Ben Laden. Qui sait, peut-être aimait-il chanter avec les talibans « Qu'est-ce qu'elles sont jolies les filles de mon pays ?» À moins que ce soit une forme de taquilla, vraiment, on ne sait pas, mais l'info est véridique. En 65, pour sa campagne présidentielle, le candidat d'extrême droite, Jean-Louis Tixier-Vignancourt, demande à Enrico Macias de composer sa musique de campagne. Tixier compte jouer sur les nostalgiques de l'Algérie, mais Enrico refuse. Le journal Minute titre le lendemain « Le juif Macias a oublié l'Algérie française ». Macias écrit en réponse la chanson « Non, je n'ai pas oublié ». Non, je n'ai pas oublié tous ces visages attristés, mais on n'a pas le droit de sacrifier le présent au passé. Ce qui fait qu'aussi, Enrico Macias, c'est le premier à faire barrage à l'extrême droite, et ça, avant que ça ne soit cool. Bref, ce soir, je vous emmène sur les traces de l'oriental, le sentimental au regard fatal, notre Enrico Macias national. Une histoire qui part de Constantine pour se terminer dans les Bouches-du-Rhône, en passant évidemment par la guerre d'Algérie, le Mossad et le Malouf. Un voyage donc, à travers la Méditerranée, on part, à cœur perdu, avec la faim dans l'âme, vers ce rocher sauvage qui fascine, vers l'Algérie, vers Constantine. Constantine, c'est un véritable petit bijou en Algérie. Vous êtes à 100 km de la mer, dans une ville millénaire, bâtie sur un rocher, une suite de plateaux, de gorges, de falaises, ceinturées de ponts suspendus, tout ça en plein dans le désert algérien. Constantine, c'est une ville sortie tout droit d'un roman de science-fiction. Ici, la géographie est tellement particulière que quand les Français sont arrivés en 1830, ça leur a pris 6 ans pour conquérir la ville. Dans les années 50, Constantine était encore divisée en trois parties. Vous aviez un quartier français, un quartier arabe et un quartier juif. Comme dans la plupart des villes du Maghreb, les juifs y vivent une paix relative, mais sont confinés dans un quartier qui leur est propre. On ne sait pas vraiment si tous ces juifs d'Algérie étaient des berbères judaïsés ou des juifs arabisés, sans doute un peu des deux, mais ce qui est sûr, c'est qu'en Algérie, des juifs, il y en a un sacré paquet. Certains sont même là depuis plus longtemps que les Arabes. Ils constituent une classe importante de la population, tendanciellement mieux éduquée, plus urbanisée, mais aussi plus favorisée. La plupart des juifs d'Algérie sont citoyens français depuis au moins 4 générations. Le décret Crémieux de 1870 avait en effet permis aux juifs d'Algérie d'obtenir la nationalité française, contrairement à leurs frères arabes. À la base, Enrico s'appelait Gaston. Gaston Grenacia, c'est un juif de Constantine, un instituteur. Il naît rue Biscara, actuellement rue Souidani Boudjema, en 1938. Passionné de musique, dès la petite enfance, on raconte qu'il confectionnait lui-même ses propres guitares avec des élastiques et des planches de bois. Son père lui offre sa première guitare, instrument qu'il ne quittera jamais. Au début, Enrico ne savait même pas accorder sa guitare, il jouait à l'oreille, plaçant ses doigts là où la note était juste. Plus tard, il joue avec les frères Enrico, un groupe de gitans, il les intègre, au point qu'on l'appellera le petit Enrico, nom d'ailleurs qu'il gardera aussi plus tard. Mais la musique chez les Grenacia, c'est une affaire de famille. Son père est violoniste dans un groupe, le groupe de Cheikh Raymond, qui se produit un peu partout en Algérie, sur les radios, mais surtout à Constantine. Cheikh Raymond, c'est un peu le symbole vivant d'une musique judéo-arabe, typiquement algérienne, folklorique et populaire. C'est lors de la bar mitzvah de son petit frère qu'Enrico rencontre Raymond Leris, Cheikh Raymond justement. Enrico a 15 ans, Raymond lui demande de jouer de l'oud, cette guitare orientale. Enrico ne sait pas en jouer, alors il improvise, et il improvise tellement bien qu'il est engagé pour jouer dans l'orchestre de Cheik Raymond. Enrico se rend dans le magasin de Raymond pour signer son contrat, un magasin de disques assez particulier puisqu'on ne pouvait y trouver que des disques de son propre groupe, le groupe de Cheik Raymond. Il n'empêche, c'est dans ce boui-boui algérien entouré de disques de folklore qu'Enrico Macias commence sa carrière musicale. Je vous passe ici un extrait plutôt rare d'un enregistrement d'Enrico Macias à l'Université Populaire de Constantine en 1954. Il est alors connu sous le nom de Gaston Grenacia, il a 16 ans et joue avec l'orchestre de Cheik Raymond. Au début de l'improvisation, on peut entendre Raymond dire à Gaston « Ninarkuya », ce qui veut dire « D'où est-ce que tu sors cela ?» Preuve de la virtuosité de ce jeune guitariste. Ce qu'il joue, c'est du malouf. Le malouf, c'est un genre particulier de la musique algérienne, une musique qui ne s'écrit pas, qui se transmet de manière orale, comme beaucoup de musique arabe par ailleurs. Vous savez, la musique arabo-andalouse, ce sont souvent de très longues pièces avec une structure bien définie, composée d'un nombre strict de noubas. Nouba, ça veut dire attendre son tour, ce qui laisse place à de nombreuses improvisations de chaque musicien, dans des modes qui sont aussi choisis à l'avance. Le malouf, dont Cheik Raymond est un véritable ambassadeur, c'est la spécialité de Constantine. Chaque ville, en Algérie, ayant son école, son genre de prédilection, vous avez le très classique Garnati de Tlemcen, le plus moderne Sana d'Alger, ou le malouf de Constantine, reconnaissable à son amour pour les flûtes. Les trois genres se ressemblent très fort puisqu'ils trouvent tous leur origine dans l'Espagne médiévale. Ce qui s'était alors passé, à l'époque, ce fut la rencontre de traditions juives, musulmanes et chrétiennes, soit un mix entre l'élan vers Dieu et l'amour courtois. Enfin, fort de tout ça, je vous propose de passer à la face A de ce soir, la chanson Constantine d'Enrico Macias, en 1962, l'une des premières qu'il a interprétée en France. Mais pour le moment, Gaston Grenacia n'a pas encore quitté Cheik Raymond, il joue toujours du malouf, dans la ville au pont de pierre qui toise l'abîme, dans cette ville, Constantine.
Les chemins défendus peuvent mener à Rome, les jours suivant les jours, conduire au temps perdu, l'eau des ruisseaux qui rit de l'oubli des hommes, rejoindre un jour la mer monotone. Mais toi, mon cœur, tu voyages vers le rocher sauvage qui te fascine, Constantine. On emmène avec soi ses plus grandes richesses, la forme d'un amour au bout de ses 10 doigts, la poudre d'or de quelque ancienne promesse et quelques larmes sur sa jeunesse. J'ai gardé les chansons vives de tes flûtes naïves en sourdine, Constantine, Constantine. On part à cœur perdu avec la faim dans l'âme, de matins lumineux, de villes inconnues. Au bout c'est le désert et ses matins calmes, le sable ou bien les bras d'une femme. Entre le ciel et la terre, tu as tes ponts de pierre sur tes abîmes, Constantine. Tu ne peux échapper aux bras de tes ravines, et comme elle je tiens mon amour bien serré, quand elle est là tranquille sur ma poitrine, je pense à toi plus fort, Constantine. Je pense à toi plus fort, Constantine.
En 1955, en Algérie, c'est le point de bascule. Ce qui n'était qu'une insurrection sur le territoire algérien devient une véritable guerre civile. Le Front de Libération Nationale, le FLN, organise depuis un an des attentats terroristes, dont les premières victimes sont d'ailleurs musulmanes, mais c'est surtout en août 1955 que de lourds combats vont se dérouler, à Constantine notamment. Tout avait commencé par un appel du FLN, le nationalisme arabe entend vaincre l'impérialisme français. Alors, leurs moudjahidines prennent d'assaut certaines villes, certains villages, l'idée c'est de semer la terreur dans la colonie, on assassine à coups de hache, on viole les femmes, on fracasse les petits-enfants contre des murs, on jette des grenades dans des cafés. Alors la France ne laisse pas faire, elle fait lever des milices populaires pour préparer les représailles. Juifs, français, mais aussi musulmans loyalistes, vont se mettre à tirer sur tout le monde, on bombarde les villages à l'aveugle, on torture. La guerre d'Algérie peut commencer. Aujourd'hui encore, il est difficile de chiffrer le bilan des massacres d'août 1955. Les Français parlent de 3000 morts, quand d'autres sources estiment les victimes à 5 ou 10 000. Ce qui est vrai, c'est que l'été 1955 à Constantine est un été sanglant. Enrico Macias a alors 17 ans, et comme je l'ai déjà dit, il fait partie d'une communauté juive plutôt loyale à la France. On l'a vu, les juifs par rapport aux arabes ont la citoyenneté française depuis déjà très longtemps, ils sont donc un peu plus favorisés, et c'est ainsi qu'on a pu voir des milices juives se constituer pour prendre les armes contre le FLN. Bref, défendre à tout prix l'Algérie française. Quand ils ne se battaient pas, ils servaient aussi de relais, d'œil et d'oreille pour les services de renseignement français ou israéliens. Le Mossad est d'ailleurs très impliqué dans la guerre d'Algérie. Avram Barzilai, un ancien agent du Mossad et présent en Algérie en 1956, avait révélé que les services israéliens entraînaient et armaient des groupes composés de jeunes juifs de Constantine pour faire la guerre au FLN. On appelait ça les unités territoriales, notamment le 12 mai 1956, une opération de représailles est lancée, suivront bien sûr beaucoup d'autres. Bref, les juifs en Algérie vont aussi participer à l'effort de guerre. Le renseignement français reconnaît même la qualité des sources juives. Le 22 juin 1956, un mois plus tard, Cheikh Raymond est assassiné. En pleine rue, une balle dans la nuque, on ne sait toujours pas aujourd'hui qui est vraiment derrière ce meurtre. L'époque est particulièrement troublée, il faut le dire. Ce qu'on sait, c'est que Raymond était très influent dans la communauté juive, on le soupçonne même d'être un informateur du Mossad, voire de constituer des unités territoriales. Son assassinat est un véritable traumatisme pour la communauté juive algérienne, mais surtout pour Enrico Macias. Cheikh Raymond, c'était son inspirateur, son maître, son père adoptif, mais aussi son beau-père, puisqu'il avait épousé sa fille, Suzy, l'amour de sa vie. L'assassinat de Cheikh Raymond en 1956, c'est la mort d'une musique, d'une communauté, le signe pour les juifs de Constantine qu'il faut partir. Leur sécurité n'est plus assurée en Algérie, les choses vont beaucoup trop loin, alors ils fuient d'abord vers la France, puis Israël ensuite. On ne connaît pas le degré d'implication d'Enrico Macias dans le conflit. Constantine, en 1956, c'était une pétaudière. Si aujourd'hui encore, Enrico Macias est interdit de séjour en Algérie, c'est justement parce qu'on le soupçonne d'avoir fait partie de l'une de ses milices, de ses unités territoriales. Il aurait même participé à des actions de représailles menées conjointement par le Mossad et les soldats français. C'est ce qu'on pense, en tout cas, dans les sphères du pouvoir algérien. Il avait bien essayé, avec Nicolas Sarkozy en 2007, de retourner en Stoum via un voyage diplomatique, mais pour l'Algérie, c'est niet, Enrico Macias, c'est l'ennemi. Pas question de le voir chanter El Polo Pampero sur la terre où 80 ans plus tôt, il aurait massacré des Felagas, toujours selon le pouvoir algérien. Le souci, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de preuves dans tout ça. Et comme les archives du FLN ne sont pas encore ouvertes, il est aujourd'hui difficile de statuer. Nous avons essayé, avec la dernière radio libre de francophonie, de contacter Enrico Macias pour lui poser, en toute amitié, des questions sur sa vie en Algérie, la guerre, Cheikh Raymond, le Mossad, tout ça. Hélas, notre demande est restée lettre morte. Je crois que concernant son implication dans le conflit, Enrico Macias emportera ses secrets dans la tombe. Et c'est là-dessus que je vous passe la face B de cet épisode, une chanson qui parle de migration, somme toute l'un des fils rouges de l'œuvre d'Enrico Macias. Il y raconte son histoire, celle de gens chassés par un cyclone et qui plantèrent des pommiers sur l'île du Rhône. Sauf que même si cette île sauvage est de bon accueil, il faut arracher les broussailles, faire reculer la forêt, percer la glaise humide. Le Sirocco d'Algérie n'en demandait pas autant. Mais malgré tout, cette terre, c'est son Amérique, son cantique. Et pour moi, je crois qu'il n'y a pas de plus belle manière que d'expliquer la migration et terminer par ces vers, car tous ces jours où l'on courbait les chines pour préparer le sol de nos pommiers, on avait tant besoin de racines que c'est aussi nos vies qu'on a plantées. Enrico Macias, l'île du Rhône.
On s'en allait chassé par le cyclone. Et sur la route, on nous avait jetés. Mais quand on fut près de l'île du Rhône, on a compris qu'on était arrivé. On a compris qu'on était arrivé. L'île du Rhône semblait nous attendre. L'île sauvage d'où Salom oubliait. On a percé sa glace humide et tendre pour y planter nos tentes et nos pommiers. Pour y planter nos tentes et nos pommiers. Que c'était bon d'arracher les poussailles. Nos mains faisaient reculer la forêt. Quand notre terre nous ouvrait ses entrailles. Que c'était bon d'y planter nos pommiers. Que c'était bon d'y planter nos pommiers. Êtes-vous fou, nous disait le village. Connaissez-vous le Rhône de chez nous? L'avez-vous vu quand il est par l'orage? Gros de la Saône et qu'il pleut sur le Ventoux. L'avez-vous vu dans ses grandes colères? Plus dangereux qu'un archange brutal. Tous les 100 ans, la chose est légendaire. Qu'à tous sa foi, il nous fait bien du mal. On a gardé les amarres à nos barques. Car si le Rhône nous donne encore 20 ans, chaque matin, chaque heure est un miracle. Le sirocco, n'en laissez pas autant. Le sirocco, n'en laissez pas autant. Regardez-la, c'est notre île quantique. C'est un poème, un bouquet de couleurs. C'est notre terre et c'est notre Amérique. L'eau de ses bords fait le tour de nos cœurs. L'eau de ses bords fait le tour de nos cœurs. Car tous ces jours où l'on courbait les chines pour préparer le sol de nos pommiers, on avait tant, tant besoin de racines. Que c'est aussi nos vies qu'on a plantées. Que c'est aussi nos vies qu'on a plantées.
À toi de jouer, ma petite salope.
Enrico Macias écrit ses premières chansons sur le bateau qui l'emmène en France. Collectivement, avec d'autres migrants qui chantaient avec lui, terminant les phrases qu'il commençait, il compose la chanson « Adieu, mon pays ». Mais celle-ci étant déjà fort connue, je préférais vous passer l'île du Rhône, sortie au tout début des années 60. Enrico Macias apprend ses premiers accords de guitare quand il arrive en France. Avant, il jouait comme il pouvait, c'est-à-dire en improvisant, on l'a déjà dit. Il utilisait sa guitare comme en musique arabe, c'est-à-dire accordée comme une mandoline et en jouant la mélodie. Or, en musique populaire, d'habitude, la guitare sert à jouer des accords, la mélodie, c'est plutôt la voix qui la porte. Il n'empêche, c'est tout de même Enrico Macias qui apporte ce côté arabo-andalou dans la musique française, et il fut l'un des premiers. Lorsqu'Enrico Macias termine son premier 45 tours, la téléphoniste lui demande son nom pour l'imprimer sur le disque. Enrico répond alors « Enrico Nacia », un diminutif pour « Grenacia », mais comme il y a de la friture sur la ligne, elle entend Macias. Mais ça, Enrico ne le découvre qu'une fois le disque imprimé, mais c'est pas grave, ça y est, l'anonyme Gaston Grenacia devient le légendaire Enrico Macias. En guise de transition et avant de terminer définitivement cette émission, je vous passe les premières notes de la chanson « Adieu mon pays » dont on a déjà parlé, où Enrico nous interprète un solo qui ressemble à s'y méprendre avec Thunderstruck, et ce, une vingtaine d'années avant AC/DC. C'est la version live de 1964, son tout premier Olympia. Thank you.
j'ai quitté mon pays.
Il est en général de bon ton de taper sur la variété. Surtout dans les milieux intellectuels, bourgeois ou urbains, dans ce sport critique, les Français sont les meilleurs. Si la variété américaine revêt un certain charme dans les oreilles francophones, il n'en est pas de même, il est vrai, pour la variété française. Souvent, c'est une musique moins aimée, méprisée, considérée comme kitsch, la variété, ça vieillit très mal. Mais ça, c'est parce que la variété, c'est toujours propre à une génération, voire même à des publics bien spécifiques. Il y a une variété pour les hommes, une variété pour les femmes, pour les jeunes, mais il existe aussi une variété pour travailleurs, pour paysans, voire même une variété pour un public issu de l'immigration. Et un chanteur comme Enrico Macias, c'est complètement ça, un artiste qui a eu du succès principalement auprès d'un public immigré. Pour ce public, Enrico Macias, c'est un monstre sacré. Sa musique arabo-andalouse, mais surtout sa poésie qui laisse place à la nostalgie du bled, toutes les thématiques de la migration, ça, c'est ce qui a plu. C'est ce qui a fait d'Enrico Macias le chanteur immigré le plus consensuel de sa génération. Les juifs l'écoutaient, évidemment. Enrico Macias, c'est le seul à faire consensus entre séfarades et ashkénazes. Mais les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, il plaît aussi aux Italiens, aux Espagnols, aux Arméniens ou aux Égyptiens. Même les Turcs adorent Enrico Macias. Et ça, c'est la magie de la Méditerranée. Malheureusement, son succès dans le monde arabe n'a pas vraiment été assuré, puisqu'à partir de 1963, la Ligue arabe demande à Enrico de démentir sa judéité. Il doit dire qu'il n'est pas juif. Enrico refuse, évidemment. Résultat, il est interdit de séjour dans plusieurs pays et ses disques sont brûlés au Liban. Mais c'est pas grave puisqu'il tourne dans tout le monde libre, mais aussi dans l'Union soviétique, le Japon, on l'a déjà dit. Il ne pourra pas faire carrière dans le monde arabe, tant pis, il se contentera de la francophonie et c'est déjà pas mal. Enrico peut donc être classé parmi ces artistes de variété issus de l'immigration et dont le déracinement est un thème majeur de leur œuvre. Tout comme Salvatore Adamo, Charles Aznavour, Mike Brandt, Dalida, dans d'autres modalités. Et pourtant, quand on écoute Enrico Macias ou tous ces autres artistes, on ne peut pas dire que ce n'est pas français. Il y a sur ces disques quelque chose qui, malgré le métissage, malgré les airs arabo-andalous, malgré l'exotisme, ça reste de la chanson française. Et c'est, je pense, toute l'essence de la variété française, justement. Si elle est difficile à définir, au moins, on peut dire ça, la chanson de variété, ce sont des airs d'aujourd'hui, souvent vieux de tout temps. J'emprunte d'ailleurs la phrase à Charles Aznavour. Une musique produite et diffusée en masse par radio, disque, concert, puis plus tard télévision, des mots simples sur une mélodie entraînante, avec beaucoup de sensibilité, et ce n'est pas du tout évident faire chanter les mots en français. Une langue complexe, analytique, d'une précision inégalée, mais lourde et d'une exigence délirante. Écrire des chansons en français qui aient un peu de sens sans qu'elles ne paraissent idiotes, c'est un travail très difficile. Raison pour laquelle de nombreux auteurs ont prêté leur plume à des artistes en leur écrivant les textes de leurs chansons. Tous les artistes de variété ne sont pas auteurs-compositeurs-interprètes, et ce n'est pas grave, car bien souvent, les artistes se spécialisent dans autre chose, souvent la performance. Johnny Hallyday, Claude François ou encore une fois Enrico Macias font partie de ce genre d'artistes. La chanson de variété, c'est donc un travail collectif. Alors oui, les textes sont souvent simples, les mélodies peuvent parfois paraître binaires, il n'empêche, cette musique plaît. Elle est écoutée, interprétée, chantée par toute une partie de la société. Pour beaucoup de gens, toutes ces chansons ont un sens. Vous les entendrez dans les mariages, les anniversaires, mais aussi dans les chantiers à l'heure du déjeuner ou dans les bar mitzvahs. Bref, cette musique est populaire, elle ne prétend pas changer le monde, elle essaye simplement de le rassembler. Et c'est sur cette méditation à propos de la variété que je vous laisse pour ce soir avec notre traditionnel dernier disque pour se dire adieu. On est en 1980, Enrico Macias se produit sur les planches de l'Olympia, il vous interprète son tube planétaire, le mendiant de l'amour. Et n'oubliez pas, si tout va mal dans votre vie, si tout part à volo, si vous ne trouvez pas dans ce monde votre place, au moins, il vous restera toujours Enrico Macias. Merci de votre écoute, bonne nuit à tous et yalla!
J'ai de l'amour plein la tête, un cœur d'amitié. Je ne pense qu'à faire la fête et m'amuser. Moi, vous pouvez tout me prendre, je suis comme ça. Ne cherchez pas à comprendre, écoutez-moi. Dans toute la ville, on m'appelle le mendiant de l'amour. Moi, je chante pour ceux qui m'aiment et je serai toujours le même. Il n'y a pas de honte à être mendiant de l'amour. Moi, je chante sous vos fenêtres chaque jour. Donnez, 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 donnez-moi. Donnez, 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 Dieu vous le rendra. Donnez, donnez, donnez-moi. Donnez, 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 Dieu vous le rendra. Donnez-moi de la tendresse, surtout pas d'argent. Gardez toutes vos richesses car maintenant le bonheur n'est plus à vendre, le soleil est roi. Asseyez-vous à ma table, écoutez-moi. On est tous sur cette terre des mendiants de l'amour. Qu'on soit pauvre ou milliardaire, on restera toujours les mêmes. Ces hommes extraordinaires, ces mendiants de l'amour. Moi j'ai besoin de tendresse chaque jour. Donnez, 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 donnez-moi. Donnez, 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 Dieu vous le rendra. Laissez-moi vous dire la générosité, c'est une larme sourire à partager. Je n'ai pas envie d'apprendre pour qui et pourquoi. Je n'ai pas de compte à rendre, écoutez-moi. Dans toute la ville on m'appelle le mendiant de l'amour. Moi je chante pour ceux qui m'aiment et je serai toujours le même. Il n'y a pas de honte à être mendiant de l'amour. Moi je chante sous vos fenêtres chaque jour. Donnez, 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 donnez-moi. Donnez, 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 Dieu vous le rendra. Donnez, donnez, donnez,
donnez, donnez-moi.
Donnez, donnez, donnez,
Dieu vous le rendra.
Dans toute la ville on m'appelle le mendiant de l'amour. Moi je chante pour ceux qui m'aiment et je serai toujours le même. Il n'y a pas de honte à être mendiant de l'amour. Moi je chante sous vos fenêtres chaque jour. Donnez, 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 donnez-moi. Donnez, 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 Dieu vous le rendra.
Donnez, 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 donnez,
donnez, donnez-moi.
Donnez, 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 donnez,
Dieu vous le rendra. Donnez, 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 donnez-moi. Donnez, 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 Dieu vous le rendra.
Encore merci de votre écoute, vous avez été très courageux à suivre cet épisode d'Enrico Macias jusqu'au bout. Et donc, en guise de récompense, j'aimerais vous diffuser un extrait d'Enrico Macias discutant avec Shimon Peres. Je ne savais pas vraiment où vous le passez, alors je le mets maintenant ici en bonus. Enrico Macias et Shimon Peres taillent le bout de gras discutant, entre autres, de la paix en Israël, avec une petite lecture sociale d'Enrico Macias qui fait toujours un petit peu plaisir. Cette fois-ci, c'est la dernière fois. Merci beaucoup et je vous laisse avec Shimon Peres et Enrico Macias. Bonne nuit.
Les chansons d'Enrico sont en parole, en appel. Ce n'est pas seulement un événement artistique seulement. C'est les chansons avec un message. Ce n'est pas seulement les voix qui parlent, mais les personnalités qui s'expriment. Il est parmi les plus grands supporters de la paix dans le Moyen-Orient. Il connaît des choses, il gardait son curiosité. Il a aussi une grande admiration, beaucoup d'admireurs en Israël, dans les deux côtés. Le côté israélien et le côté arabe. Et pour nous, son présence, c'est toujours une célébration humaine, une occasion pour encourager le processus de la paix.
Il m'a expliqué une chose, c'est que la paix ne peut pas exister si on n'améliore pas le niveau de vie des Palestiniens. Ça ne suffit pas de faire seulement la paix, de régler un problème technique, politique, social, sans qu'il y ait un problème économique à régler. Et ça, c'est tout le monde qui doit être concerné. C'est pas seulement Israël. C'est pas à Israël seulement de faire ça. Enfin, je me permets, hein, d'expliquer.
Très bien.